Bonjour à vous, bienvenue sur votre radio préférée Fréquence 7 dans cette nouvelle émission Santé mentale en lutte. Et oui, avec une double parenthèse autour du S parce que ces luttes qui nous traversent, qui nous portent, qui nous révoltent vont s'additionner telles des couches. Et on va parler de l'impact que ça a sur notre chère santé mentale, comme le dit le collectif RERQ. Les thèmes de cette émission vont être nombreux et ouverts, notamment le féminisme et les luttes LGBTQIA+, et puis cette première émission sur le thème de la transidentité. C'est un thème si large qui regroupe tant de vécus qu'on y reviendra souvent, vous verrez. Mais on aura aussi des thématiques comme les relations hors normes et les amours pluriels, le racisme et le post-colonialisme, l'économie du bien-être, la pandémie et les crises, l'éco-anxiété et l'antispécisme, troubles de la personnalité et de l'humeur, la neuroatypie, TSA ou encore la parentalité, les réseaux sociaux et le travail. Donc un vaste programme qui va bien nous occuper cette prochaine année. Et puis le programme et puis la vibe de cette émission, ce sera tout d'abord d'avoir un temps et un endroit pour s'informer avec des interviews tant d'associations que de personnes concernées de la société civile. Un temps aussi pour se culturer grâce aux ouvrages de la bibliothèque queer et féministe Les Lunes qui nous concocte une sélection par thématique d'émission. Et on s'inspirera aussi de l'art donc fait par et pour les personnes concernées. Et puis pendant l'émission, on est là aussi pour se réconforter avec du love, de la bienveillance et de l'écoute. Bon bah moi, c'est Cal, mon pronom c'est Yel, je suis donc non-binaire et j'ai à cœur de proposer des espaces safe où l'anonymat notamment de nos invités sera préservé. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous ouvrir à l'idée de venir témoigner ici. Et puis l'espace se veut aussi réconfortant, comme je vous l'ai dit, et doudou, puisqu'on est là aussi pour se donner de la force avec des imaginaires queer et des icônes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Alors, pourquoi commencer avec la transidentité ? Ben, tout simplement pour commencer par soi et sa propre vulnérabilité, commencer à se mettre à nu par soi-même. Donc, je commence. Ben, moi, en fait, la transidentité, pour moi, c'est surtout tout ce qui sort de la cis-identité et du système binaire. Donc ça veut dire, la transidentité, c'est vraiment quand on n'est pas OK avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance. Donc ça se situe au niveau de l'identité de genre. Mon parcours à moi, il a commencé avec l'imposition d'un modèle extrêmement binaire, extrêmement hétéronormé. J'étais vraiment la princesse, la poupée de porcelaine, trop fragile, trop sensible. Mais aussi, ça a commencé dans un environnement très psychophobe. Donc j'étais très concrètement la tarée de service en dépression à l'âge de 5 ans, qu'on croyait sauver avec du sédatif PC. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est de l'homéopathie. Et après, j'étais la frique qui se faisait bully dans la cours de récré, de la primaire au collège. Bon, en même temps, le collège, je crois que c'est sacrément la merde pour tout le monde. Mais heureusement, on arrive à un moment, une implosion surtout, mais à une libération aussi vers mes 19 ans. Alors bien sûr hein, que l'impact sur ma santé physique et mentale a été non négligeable, à coup d'autodestruction dans le corps et l'esprit, d'autosabotage dans les relations, mais ce truc de autosabotage, autodestruction, ça nous met un peu la culpabilité sur nous. Et je veux rappeler aussi que cette responsabilité, elle est partagée, hein, parce qu'on subit ça, on ne le crée pas. Et puis on fait comme on peut aussi pour se protéger avec les armes qu'on a à un instant T. Après, je pourrais dire qu'avec les années et mes copaines d'amour, j'ai pu me libérer dedans, ou alors plutôt dans l'ombre de la nuit et la buée de la fête. Mais j'ai continué un sacré moment de lutter pour exister dehors, à retrouver confiance en soi, affirmer qui l'on est, et d'abord trouver qui l'on est, puis le faire respecter dehors. Ça passe par les limites, ça passe par les besoins, ça passe par abaisser le seuil de tolérance et dire sa vérité, et puis arrêter de s'excuser d'exister et prendre sa place en ce monde et arrêter aussi de se sentir illégitime dans son identité. Hein, j'ai eu du pas assez queer pas mal de temps, pas assez lesbienne, pas assez queer, pas assez non-binaire. Et puis heureusement, on s'entoure aussi d'une communauté qui devient famille. On se partage, comme ici, des ressources, on se crée des modèles, on s'entoure d'icônes qui rendent nos luttes visibles. Gaga, on t'aime. Et puis on se dit et on s'écrit dans un nouveau langage qui nous permet de nous raconter. On se forge aussi de nouveaux imaginaires dans lesquels on a le droit d'exister tel qu'on est. Donc voilà, donc cette émission, elle est pour tout ça, pour une parole libre, pour une humanité dans toute sa vulnérabilité et pour se retrouver ensemble et reprendre espoir finalement. Donc bon, dans nos transidentités, on a souvent en commun ce parcours de combattant, combattante vis-à-vis d'un système qui oppresse et laisse des marques pour la vie. Et on se demande souvent s'il ne faudrait pas sortir de systèmes qui nous dépassent, quoi, qui nous enferment pour ne plus y entrer. Et c'est pour ça qu'on chérit la marge en transgressant leurs règles du jeu éclatées. Et donc mon allié, mon invité du jour, c'est Alix, au pronom indécis. Toi Alix, c'est quoi ton parcours avec la transidentité ?
Bonjour.
Salut.
Bonjour. Alors moi c'est un petit peu, j'ai eu un rapport très tardif avec ce vocabulaire-là, mais je pense que c'est un peu comme toute cette, enfin moi je fais partie d'une génération qui est un peu entre deux, entre celle qui avait vraiment aucune représentation, rien, etc., et celle qui maintenant grandit quand même avec pas mal de choses, avec les réseaux sociaux, internet, etc., et beaucoup plus de personnalités qui font leur coming out, etc. Mais donc bref, moi au tout début j'étais juste un petit farfadet qui voulait pas mettre des robes, qui, voilà, enfin bref, c'était des choses qui me dépassaient en fait. Je pense qu'il y a un moment, jusqu'à un certain âge, et je pense que c'est un vécu qui est partagé par pas mal de personnes queer, on vit sa petite vie d'être humain en fait finalement, et puis si nos parents sont assez sympas pour nous laisser faire ce qu'on veut et ils vont pas nous brimer, nous dire non tu dois pas mettre de jupe, tu dois pas faire ci, etc., en fait, on fait sa vie jusqu'à ce que, on se prenne un peu le mur de la réalité, on va dire ça comme ça, et que là, on se rende compte que, effectivement, on est une femme, etc. Et voilà. Et puis à partir de là, les problèmes commencent. Mais c'est-à-dire qu'avant, j'ai jamais ressenti le besoin de me définir, et ça ressort encore aujourd'hui, où c'est pour ça que j'ai dit pronom indécis, parce qu'en fait, pour moi, les pronoms en soi, je m'en fiche un peu. Ce qui me pose problème, c'est comment on me considère. Donc, c'est-à-dire, ça me dérange pas du tout qu'on dise « elle ». Enfin, je m'en fiche vraiment. Par contre, si on me dit les femmes d'abord ou je sais pas quoi, en gros, ce genre de formule ou ce genre de comportement, si je sens qu'une personne se comporte différemment avec moi parce que je suis pas un homme, là, ça va me poser problème, globalement. Mais sinon, ça doit se ranger dans la case non-binaire, puisque ça n'est pas binaire, forcément, puisque je ne suis pas dans un vécu d'une personne trans qui est de l'un à l'autre, binaire, quoi. Donc moi, c'est assez fluide, en fait. Je suis plus la team humain, finalement. Ou juste, j'aimerais bien que les gens puissent faire bien ce qu'ils veulent, et s'habiller bien comme ils veulent, et se comporter bien comme ils veulent. À partir du moment où ils respectent les autres. Voilà. Ça, c'est à peu près mon rapport.
Très chaud aussi. merci en tout cas d'être là. Et tout au long de l'émission, tu vas être là pour apporter ta petite pierre à l'édifice aussi sur ce grand sujet de la transidentité, qui est aussi notre réalité quotidienne. Et puis dans chaque émission, j'aurai la chance de recevoir une ou plusieurs invités. Mais je préfère les appeler des alliés parce qu'on est ensemble dans la vie, que l'on se connaisse ou pas. Et je souhaite que pendant une heure, vous aussi, chers auditeuristes, vous soyez avec nous, confortablement installés ou à l'arrache entre deux trajets pour qu'on se donne de la force et de la visibilité en témoignant de manière anonyme, en racontant le dedans de nos esprits et les luttes dans nos vies. Je dis anonyme parce qu'on a la possibilité de changer son mode d'appellation. Mais Clara nous a dit en technique qu'elle a beau nous adorer, elle ne va pas non plus modifier nos voix. Donc voilà, merci en tout cas déjà Clara pour tout ça. Et à chaque fois, je vais lancer des bouteilles dans un océan de bénévolat et d'épuisement émotionnel pour avoir des invités, des alliés. Parce que oui, la lutte, peu importe pour quelle cause, elle prend de l'énergie. Et du coup, aujourd'hui, c'est cette personne spéciale pour moi qui a répondu à mon appel. Alors merci Alix d'être là. Et alors, je pense presque, on se pose pas la question, mais pourquoi c'est vital de faire une émission sur la transidentité ? Eh bien, je me suis dit que hier, cette petite publication sur Elon Musk, qui nous a encore sorti une dinguerie en proposant de mettre en prison toutes les personnes transgenres, ça pouvait donner une réponse, une piste de réponse. Et puis, bien sûr, sans parler de toutes les attaques transphobes au quotidien et la transphobie qui tue tous les jours, hein, on pense à nos chers amis, ennemis bien sûr, Marguerite, Dora et compagnie. Et puis voilà, là on était à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et puis cette queerness a été farouchement dénoncée et scandalisée. Voilà, donc ici on va pas revenir sur les chiffres qui nous dépriment et qui nous semblent impersonnels. On va plutôt laisser le micro ouvert pour nos vécus, pour nos luttes au quotidien, pour nos deuils aussi, bien trop souvent, et pour se construire un espace où l'on peut se raconter avec ses propres mots. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de vous plonger dans un univers très visuel, puisque la transidentité a longtemps été représentée dans les arts de manière très clichée, voire complètement stigmatisante et offensante. On pense bien sûr à l'univers des freak shows, des films de genre du siècle passé, où le trans était monstrueux. Alors fermez les yeux et souvenez-vous des images peu représentatives qu'on avait à la télé ou au cinéma, notamment. Et puis en 2019, Paul B. Preciado, philosophe trans, a prononcé un discours devant 3500 psychanalystes qui a fait scandale en disant « Je suis un monstre qui vous parle ». Et Talma Desta de rappeler dans son ouvrage « La fin des monstres » que le monstre n'existe que dans le regard dominant qui vient déterminer ce qui relève du sain et du non pathologique et ce qui relève du reste. Ce que dit Preciado, c'est qu'il n'y a pas d'essence monstrueuse, il n'existe que des normes et des personnes qui s'en affranchissent. Et alors ici, il s'agit aussi de parler d'une chose vraiment essentielle, qui est la dépathologisation de la transidentité dans le système de santé et dans la loi. Mais même si on a eu quelques victoires récentes, tout est loin d'être gagné. Il faut regarder juste les démocraties européennes. Un petit rappel, trans rights or human rights, les droits des personnes transgenres sont des droits humains. Ce n'est pas un phénomène de société, mais c'est un fait de société, ça c'est sûr, parce que comme nous le disait Alix tout à l'heure, eh bien, quand on est une personne transgenre, on a un corps politique, un corps de santé publique. Donc peut-être que Alix a envie de partager ta vision sur ce corps vu comme monstrueux au regard de la société, des discriminations encourues, et aussi plus tard, comment tu vis peut-être la prise en charge médicale de la transidentité.
Ouais, alors en fait, comme je disais, moi j'ai toujours été dans un truc où avant la puberté, bon bah je veux dire à un moment donné, on fait pas vraiment la différence entre un corps de garçon, un corps de fille, bon voilà, y a pas grand chose qui se passe, donc globalement, voilà. Mais donc à partir du moment où ça arrive, bon, on est vite remis à sa place, quoi. Et en fait, moi j'ai jamais été non plus dans la case femme, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment des mecs trans qui, par exemple, sont passés, entre gros guillemets, par la case femme, au sens où ils ont été perçus à 100% comme des femmes avant d'entamer une transition. Je dis bien perçus.
De passing, du coup.
Voilà. Alors que moi, honnêtement, fallait vraiment forcer sur le truc pour rentrer dans la case, c'est-à-dire que j'ai toujours, voilà, je cite Judith Butler, hein, mais j'ai toujours mis le trouble dans le genre à chaque fois que je croisais quelqu'un, et voilà, et ça fait très longtemps que, bah, en plus, hein, j'ai vraiment, entre guillemets, pas de chance, parce que c'est quand même handicapant, on va pas se mentir, de passer pour un monstre tout le temps, c'est quand même un petit peu chiant, je suis quand même extrêmement poilue, j'ai pas spécifiquement des traits féminins, ni masculins en fait, ni assez androgynes, pas masculin, mais pas assez androgynes. Donc en fait, je peux même pas être dans la case androgyne qui, en 2024, est quand même très stylée. Ça, c'est pour le coup, l'androgynie, c'est un phénomène de mode. Mmh. Ce qui veut dire que bon, bah, quand on est un minimum grand, qu'on fait un minimum 1m65, qu'on est très fin, pas trop de forme, bah là c'est bon, on peut s'éclater, il n'y a pas de problème. Quand on ne rentre pas dans cette case et qu'on se retrouve... Alors je dis pas que ces personnes-là n'ont pas de problème, je dis juste qu'en termes de passing, elles peuvent beaucoup plus facilement, et c'est le privilège de la minceur et de la beauté, hein, c'est des choses réelles, et de la blancheur en général aussi. Et c'est vrai que l'androgynie, de toute façon, c'est une personne blanche, mince, voire maigre, et sans forme. Enfin, c'est ça. Et en fait, c'est étrangement ce qui se rapproche le plus de l'homme de base, finalement, sauf sans organes génitaux. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais toujours dans cet entre-deux, entre guillemets, qui fait que je pouvais pas juste me dire oh, « bah super, je vais juste m'habiller super comme un mec, comme ça, je vais être vraiment perçue comme un mec, et puis au pire, bon, si au moment où je parle, c'est pas grave, juste dans la rue, personne me capte. » Ce n'est pas possible puisque, voilà, quand on a des hanches et un cul comme ça, ça ne fonctionne pas. Et qu'on fait 1m50, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc pas assez de forme féminine pour dire, bon, je vais être tranquille, je vais juste passer en tant que femme pour être tranquille. C'est pas possible. Et pas non plus possible de passer pour un garçon. Donc voilà, on fait quand même partie des personnes qui, en termes de passing, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc, bah, quoi que je fasse, en fait, pour 80% de la population, je suis quelque chose de bizarre, en fait. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas passé, le cap « Ah, c'est un être humain, on va avoir une discussion », avant, juste, quelle est cette chose qui est en face de moi, ils sont fous, quoi. Mmh. Et franchement, des fois, c'est même drôle. Enfin, j'en joue dans les moments où je ne suis pas trop mal, où à un moment donné, je dis « Putain, mais c'est quand même fou, quoi. » Les gens, enfin, il y a souvent des hommes, mais pas que, qui vont juste ne pas savoir comment s'adresser à moi. C'est là où on voit vraiment que le sexisme, il est encore bien là. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment s'adresser parce qu'ils sont là. Oula, quelle est ma posture? Est-ce qu'une personne que je peux baiser? Non. Mmh. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pas un homme non plus. Bon, je peux pas le checker, c'est pas un bro. Ça devient... Ces personnes se posent beaucoup de questions dans la vie, je trouve. Plus que nous. On croirait qu'on se pose plein de questions et qu'on invente plein de trucs. Ben, je suis désolée, mais voilà. On a quand même une... On est beaucoup plus libre d'esprit qu'on va dire. Et donc, pourquoi j'étais en train de dire ça?
Après, en termes d'impact sur ta santé mentale, justement, il y a des personnes ou des choses qui t'ont donné de la force aussi pour soit assumer une certaine part de ton expression de genre atypique ou d'autres.
En fait, rien que le fait que mes parents m'aient quand même jamais rien dit et jamais fait vraiment de réflexion sur comment je devais m'habiller, etc., déjà sur ça, bon, c'était plus les autres personnes, familles éloignées qui pouvaient faire des réflexions, mais globalement, ça me permettait quand même de me dire, je peux acheter les vêtements que je veux, tant qu'on est encore financièrement dépendant de ses parents et qu'on peut pas s'acheter ses vêtements, etc. C'est déjà quelque chose, donc jusqu'à l'adolescence, 16, 17 ans et tout ça, j'ai quand même pu m'habiller comme je voulais et expérimenter, faire des choses, etc. Mais globalement, voilà, on va pas se mentir que, juste pour revenir sur le côté monstrueux, là, actuellement, je suis justement en train de me dire que je vais faire donc une torsoplastie, donc c'est-à-dire, en gros, retirer la poitrine, parce qu'en fait, c'est trop compliqué, cet entre-deux, qui ne me permet pas d'être juste tranquille et qu'on n'arrête pas de me mater tout le temps, en fait. Des fois, voilà, j'aimerais juste passer pour une personne androgyne un peu stylée. Les personnes d'un certain âge se disent « Oh là là, c'est la Gen Z, ils sont comme ça ». Ils aiment bien être un peu entre les deux, super. Non, voilà, pas quelque chose qu'on va reluquer bizarrement, mais juste, hop, c'est bon, ça passe. Et puis même pour moi, en fait, à un moment donné... En fait, je pense que c'est clairement la société qui m'a créé une dysphorie, parce qu'à la base, j'avais pas de problème. Hein. Moi, je vivais juste dans mon corps tranquillement, en fait. Hein. Et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes, et je sais que ça dépend vraiment des vécus, mais je veux dire, si on va du côté de la philosophie et qu'on part un peu, on va dire, du concret, ben, en fait, cette société... Elle est là, il n'y en a pas d'autre. Donc concrètement, elle est intimement liée à la transidentité, ça veut dire que sans cette société, la transidentité, elle n'existe pas. Et je parle de société au sens très large, hein, des sociétés humaines de manière générale, mais si on prend la société moderne, je veux dire, ça n'existe pas sans. Donc moi, je suis persuadée que si on était dans une société où les enfants pouvaient vivre comme ils le voulaient, etc., et qu'il n'y avait pas cette différence sexuelle de « oui, je peux faire des enfants, je peux ci, je peux ça », ben ça se trouve, il y aurait... vraiment beaucoup moins de transitions physiques et anatomiques, entre guillemets, parce que peut-être que les personnes se sentiraient juste bien de se présenter à l'autre comme elles en ont envie. Et je connais beaucoup de personnes trans aussi qui ne font pas, par exemple, l'opération jusqu'au bout d'un côté ou de l'autre, justement parce que dans leur intimité, ça ne les dérange pas. Ce qu'elles veulent, c'est que la société les perçoive comme telles pour être tranquilles et en paix, en fait. Mmh.
Et oui, c'est vrai que pendant cette émission, on va utiliser souvent des termes dédiés un peu peut-être inconnus du grand public, notamment dysphorie de genre. C'est vraiment cette idée qu'on ressent, c'est l'inverse d'une euphorie, hein. C'est vraiment qu'on va être en décalage complet avec notre identité de genre, en tout cas celle, le genre qui nous a été assigné à la naissance. Et donc, on ne se sent pas correctement identifié, en fait. Voilà, donc après, sachez qu'à la fin de chaque émission, vous aurez la possibilité de retrouver tout un tas de références et je pourrais aussi faire un petit glossaire parce que quand il y a des termes spécifiques, c'est important aussi de savoir de quoi on parle. Mais en tout cas, on reviendra sur cette notion justement de comment la société aussi provoque aussi des dysphories de genre, etc., avec des ouvrages notamment de référence. Mais pour revenir sur l'aspect du coup de notre système de santé qui est défaillant vis-à-vis de cette prise en charge et notamment de la prise en charge de cette diversité de cas, parce qu'en effet, on rappelle, dans le système de santé public, quand vous voulez être pris en charge dans votre transition, eh bien c'est OK si vous passez de A à B, d'une binarité, de mâle tout femelle, de femelle tout mâle. Par contre, quand vous voulez faire que certains aspects de la transition, par exemple juste prendre des hormones ou une des opérations, etc., eh bien là, très concrètement, ça n'est pas remboursé. Il faut passer dans le privé, ça coûte vraiment des milliers d'euros. Et comment toi, tu as vécu, Alix, cette prise en charge médicale et par où tu comptes passer dans ton propre parcours de transition ?
Ben, en fait, voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui passent par le public pour ce qui est possible parce que c'est hors de prix, hein, on va se mentir. Donc pour les personnes qui sont vraiment très précaires, voilà, la question se pose pas. Moi, je ne fais pas partie des plus précaires, j'ai quand même cette chance. Donc je vais évidemment passer par le privé parce que moi, personnellement, je subis la prise en charge médicale au-delà d'un parcours de transition. C'est-à-dire même pas pour faire des choses qui sont relatives à la transition, c'est-à-dire que la transphobie, elle s'étend à l'entièreté du monde médical, et on dit transphobie, on peut aussi dire sexisme, on peut aussi dire racisme, en fait, hein, grossophobie, etc. En fait, les corps qui sortent d'une majorité blanche, valide, imberbe, etc., sont jugés par les gynécos, les ceci, les cela, enfin voilà. C'est vraiment une globalité, de toute façon. C'est totalement à l'intersection, quand on dit les couches de lutte, hein, c'est ça aussi. Donc pour moi, ça revient à la même chose, en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ai des personnes trans dans mon entourage qui ont vécu des choses plus violentes d'un médecin généraliste que d'un ou d'une chirurgienne qui aura fait leur torsoplastie ou autre chose, en fait. Je pense vraiment que c'est en globalité, enfin, cette angoisse, en fait, moi, vraiment, j'ai dû, pas beaucoup de fois dans ma vie, me faire opérer pour des choses très mineures, enfin, pas des choses très graves, et j'étais en angoisse total que mon corps, en fait, parce que bon, on est obligé d'être nu dans la plupart des opérations, bien sûr, on a un vêtement, mais je veux dire, bon, globalement, voilà, c'est, pour moi, c'est une angoisse, mais totale. Et des fois, j'ai des angoisses de le moment où je fais un malaise seul. Imaginons, je suis en culotte dans mon lit ou je sais pas quoi, c'est ma pire angoisse. Que les pompiers, ils arrivent et ils voient ce monstre-là. Non, mais c'est un truc de fou, en fait. Et pour le côté monstre, il y a aussi le côté, bon, bah, on fait une opération, par exemple, une torsoplastie. Pour les personnes qui ont de la chance, encore une fois, et qui ont le privilège de ne pas avoir beaucoup de seins, ça peut ne absolument pas se voir. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace. Mais pour la plupart des personnes, il y a des cicatrices, hein, qui sont assez visibles pendant très longtemps. Ça veut dire aussi rentrer dans une autre case monstre. Donc, finalement, c'est se libérer d'un poids au sens figuré comme... propre, finalement, et se sentir mieux dans ses vêtements, etc., etc., et dans son corps, mais en même temps, à vie, c'est fini, quoi. À vie, on ne pourra plus passer comme juste une personne grosse, moche, ou autre. Non, c'est fini. Genre, c'est trans à vie. Mmh. Et ça, comme on ne sait pas comment la société va évoluer, c'est quand même extrêmement courageux et extrêmement... voilà. Ça, moi, je trouve ça assez incroyable. Je n'ai pas encore passé le pas, c'est pour bientôt, mais bon, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça aussi que ça a repoussé pendant très longtemps aussi mon choix, parce que j'avais juste peur, en fait. Peur que ce soit pire que ce que je vis déjà, parce que moi, je n'ai pas le passing 6. Je ne l'ai jamais eu, je ne l'aurai jamais. Voilà.
Et justement, tu parles aussi de la prise en charge du système médical et que c'est un système. Hein, donc, on a en effet beaucoup d'interlocuteurs, d'interlocutrices, dont beaucoup manquent encore terriblement de formation et sont dans une totale ignorance, voire complètement un mépris par rapport à ces questions vitales, en fait, qui concernent beaucoup de vies. Et ça, tu l'as déjà vécu, justement, de devoir te valider, légitimer ton ressenti, comme si ton parcours, justement, qui est un peu à la marge de d'une transition binaire, qui serait médicalement acceptée, sociétalement acceptée, eh bien, du coup, on te demande plus de te valider, de te légitimer, de te justifier.
Bah, en fait, moi, j'ai choisi la carte lâcheté. C'est-à-dire que, à part si je suis obligée, c'est-à-dire concrètement une consultation qui concerne le parcours de transition, je ne m'oute pas en fait. C'est-à-dire que là, concrètement, si à un moment donné il y a une opération et que j'ai des cicatrices, je vais, voilà, ça va être compliqué de faire autrement. Après, on peut prétexter un cancer du sein, j'en sais rien, mais bon, c'est pas très cool pour les personnes qui ont des cancers du sein, mais en tout cas. Voilà, moi je suis sur cette carte, j'ai pas envie de m'ajouter des problèmes. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai ce truc où de toute façon, depuis toujours, je vis la transphobie, je vis le fait de pas être dans le système. Donc, est-ce que j'ai envie de me rajouter des problèmes ? Non, j'ai la chance de pouvoir passer, j'en sais rien, pour une lesbienne masculine, donc ça choque quand même, hein. C'est-à-dire qu'on est au stade où là on parle de transphobie, mais lesbophobie et compagnie se rajoutent derrière, parce que moi ça m'est arrivé plutôt d'avoir des questions sur le fait justement que j'avais que des partenaires femmes, entre guillemets. Voilà, ça peut être plutôt du « ou ah, vous avez un petit ami » ou je sais pas quoi. Bon, ça va plutôt être des choses comme ça et des jugements sur la sexualité. C'est plutôt ça que j'ai vécu concrètement parce que ça, bon, bah, à un moment donné, il faut dire quel rapport sexuel on a, on le dit, on peut pas cacher. Alors que, bon, là, en l'occurrence, je peux très bien cacher que mon pronom est un tel ou mon pronom est ceci puisque j'ai pas pour projet d'avoir, de prendre d'hormones et donc d'avoir une transformation qui soit entre guillemets réelle pour la société et flagrante.
Mais ça, c'est vrai que c'est hyper important de le dire. On en attend toujours beaucoup plus des personnes qui sont concernées par des luttes que de se battre en permanence. Alors qu'en général, rien que de vivre, rien que de partager l'espace public avec d'autres humains, c'est une lutte et c'est un combat de tous les jours. Donc c'est vrai que des fois, c'est aussi OK de se dire bah, « en fait, je me fous la paix ». C'est pas, je trouve que mon lâcheté, je comprends, mais il est difficile parce que c'est juste, en fait, tu vis déjà tellement de discrimination, etc. Et tout ça, ça s'additionne et ça s'ajoute et ça a un impact sur ta santé. Mentale telle que des fois tu peux juste te foutre la paix.
Vous venez d'écouter la première partie de l'émission Woke et Queer à souhait, nos santé mentale en lutte. Retrouvez la fin du témoignage d'Alix sur sa transidentité dans la deuxième partie, le 30 janvier à 21h sur les ondes de fréquence 7. Bisous les cœurs doux.